Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, et puis nous sommes heureux d'accueillir l'ancienne ministre de la Défense, ancienne eurodéputée Sylvie Goulard. Au sommaire ce dimanche, Gilets jaunes, de quoi leur colère est-elle le nom? Et puis Poutine, Trump et les Brexiteurs, qui veut la peau de l'Union européenne? Un peu moins de 300 000 gilets jaunes hier à travers le pays et un mouvement qui allait sans doute se prolonger. Une mobilisation endeuillée par la mort d'une manifestante et plusieurs blessés. L'image de ce millier de personnes se rapprochant de l'Élysée, suivie avec excitation par les caméras des chaînes d'infos en continu. Des slogans et mots d'ordre divers de « on n'en peut plus » à « Macron démission ». C'était cela le mouvement des Gilets jaunes, une addition de colère, celle de citoyens ordinaires et moins ordinaires, colères agrégées, amplifiées par les réseaux sociaux avant d'être relayées par les médias traditionnels. Les Gilets jaunes ou ce nouvel exutoire anti-taxe, anti-dirigeant, anti-tout, l'indéfinissable ras-le-bol, colère, désespoir, partie de la toile, dont on se demandait s'il s'agissait de la version 2018 des jacqueries de l'ancien régime, des chemises vertes des années 30, des poujadistes des années 50 et plus récemment des bonnets rouges bretons de 2013. Avant d'écouter aussi ce que nous disaient ces sociologues qui analysaient depuis maintenant pas mal de temps ce sentiment de déclassement et de décrochage de ces classes moyennes occidentales qui vivaient en périphérie des villes, de la mondialisation et de la révolution numérique, qui avaient le sentiment que les services publics fermaient aussi vite que les usines, ce qui nourrissait cette résistance à l'impôt. Enfin, on se demandait si on n'assistait pas aussi au déferlement d'une colère spécifiquement française, dans ce pays où l'on était si vite déçu par ces dirigeants qu'on élisait en croyant chaque fois à l'homme ou au président providentiel. On entendait pour finir l'impuissance de ces dirigeants qui rêvaient de grandes réconciliations nationales sous la bannière bleu-blanc-rouge ou sous le drapeau européen et qui ne trouvaient en face d'eux qu'une rouge colère et des gilets jaunes.
Il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Mes cadres, mes élus, mes militants, mes électeurs seront présents évidemment aux côtés des manifestants.
J'y vais pour écouter et pour comprendre. Quel est mon moteur depuis 20 ans? C'est de rendre visible une France invisible. Et ça fait 20 ans que je me demande, mais quand est-ce qu'elle va se réveiller? Et aujourd'hui, on a cette France invisible qui se rend visible, qui met un gilet jaune, qui interpelle jusqu'au président de la République. Et mon premier réflexe, c'est de me dire, dans ce moment-là, on doit écouter et comprendre. Et quand j'entends que ça a été rejeté au nom de « ce sont des fachos », c'est une nouvelle manière de ne pas vouloir entendre ce qui va se dire.
Ça, c'est bon, des armes contre un bouson, il n'y a rien là. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de pavé, il n'y a pas de couteau, il n'y a même pas de haine.
On est avec vous, monsieur, on est avec vous. On est avec vous, enfants.
J'ai mal aux yeux, j'ai été gazé 3 fois.
J'ai voté 2 fois Macron au présidentiel, 2 fois Macron aux législatives. Et je vais vous dire, plus jamais je recommencerai.
C'est totalement pacifiste et il y a un réel malaise du fait de la pression fiscale.
On n'est vraiment pas content de ce qui se passe, on n'est pas content de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Les taxes, bien évidemment, mais pas que.
Et 3 anciens ministres dans ce studio ce matin, Hubert Védrine, Sylvie Goulard et Aurélie Filippetti. Aurélie Filippetti, ce genre de mouvement de contestation, comment le dirigeant politique doit y répondre?
D'abord, c'est difficile pour les politiques, hommes et femmes politiques, d'y répondre. Parce que c'est un mouvement qui est en fait né d'une contestation de l'idée même de structuration politique d'un discours et d'une vision de la société. C'est un mouvement qui est profondément, au fond, anti-politique dans son essence. Il y a des gens dans les cortèges, vous voyez, j'ai dit le mot cortège, qui est en fait un mot
c'est
justement
d'avant.
Du monde d'avant. Mais il y a des gens qui ont pu voter pour des candidats extrêmement divers aux dernières élections présidentielles et qui vont se retrouver dans ce mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a un aspect finalement de contestation de la légitimité de tout pouvoir politique. Et actuellement, évidemment, c'est Emmanuel Macron qui est président de la République, mais au fond, ce mouvement aurait pu naître autrement. Et pour moi, ça procède d'une désorientation profonde du peuple, du corps politique qui est le peuple, face au fond à un sentiment qu'ils ont d'impuissance du pouvoir politique et aussi d'injustice, l'injustice fiscale. Pourquoi est-ce qu'au fond il y a cette expression d'une colère contre les taxes? C'est pas le fait de payer des taxes pour payer des taxes, à mon sens. C'est parce que d'un côté, ils ont l'impression que finalement les plus riches échappent largement à l'impôt, réussissent à échapper à l'impôt par des mécanismes d'optimisation ou d'évasion fiscale. Et de l'autre côté, eux, ils voient, dans les régions où ils habitent, dans cette France périphérique, on va dire, ils voient le recul des services publics. Donc ils se disent, finalement, nous, on paye des impôts, alors que les riches n'en payent plus ou très peu. Et inversement, on n'a plus les services publics, l'État, la présence de l'État dans tous nos territoires, qui était une forme de garantie de l'égalité entre tous les citoyens et tous les territoires, et qui aujourd'hui recule sous la pression quand même des politiques néolibérales, de réduction des dépenses publiques, etc. Donc je pense que le mouvement, il s'explique comme ça. Et donc c'est vraiment pour les politiques un véritable défi de redonner confiance dans l'idée même que les politiques peuvent faire quelque chose.
D'autant, Sylvie Goulard, que concernant ce ras-le-bol fiscal, le président Macron y avait répondu avant même cette journée de mobilisation. C'était sur le Charles de Gaulle il y a quelques jours, avec des annonces majeures, une surprime à la conversion. 20% des Français y auront droit dès l'an prochain, avec des sommes importantes, 4 000 euros pour acheter un véhicule hybride, électrique ou moins polluant. Ça veut dire que le dirigeant est inaudible face à ce genre de mouvement ?
Si vous permettez, d'abord bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et bienvenue.
Merci Émilie. Je crois qu'il est très important de mettre dans le paysage un certain nombre de faits et de chiffres. La dépense publique en France est la plus élevée des pays de l'OCDE, c'est-à-dire non seulement d'Europe, mais si on inclut l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, etc. Donc, dire qu'il n'y a pas de dépense publique en France, ou que les gens perçoivent on sent bien qu'ils perçoivent une austérité, mais nous sommes déjà bien au-delà de ce que font des pays relativement similaires. Ce sont des chiffres, ne portent aucun jugement de valeur. La deuxième chose, c'est qu'il est vrai aussi que le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire ce que les gens payent, est, alors là, pour le coup, aussi le plus élevé d'Europe. On est à 45%, on est passé devant des pays nordiques comme le Danemark. Donc cette perception à la fois d'un impôt très élevé et d'une dépense publique très élevée peut expliquer, dans l'arrière-plan, pourquoi les gens se sentent accablés. Mais il y a des phénomènes qui sont propres à la France. Par exemple, la géographie, je sais que vous aimez bien la géopolitique, la géographie compte. Nous avons un pays qui est beaucoup plus vaste et beaucoup moins dense que d'autres pays d'Europe. Quiconque a voyagé dans le nord de l'Italie ou en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est-à-dire pas dans des pays très lointains, se rend compte que dans ces pays-là, il y a beaucoup plus de villes qui sont beaucoup plus proches les unes des autres. Donc le maintien de services publics sur l'ensemble du territoire est plus onéreux en France aussi. Et ce qui est important dans ce que vous avez dit, c'est que effectivement, on agrège des colères qu'il faut savoir entendre. Pendant 8 ans au Parlement européen, je me suis occupée de lutte contre la pauvreté. J'ai été sur le terrain, j'ai été dans ces zones périphériques, donc je connais bien un certain nombre de gens qui galèrent, je vois bien quelles sont leurs difficultés. Il ne s'agit absolument pas de nier le problème, mais il s'agit aussi que l'ensemble des Français se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on veut plus de dépenses publiques, ce qui obligera d'avoir plus de prélèvements? Comment, comme l'a dit Aurélie Filippetti, c'est réparti entre les différentes couches de la société? Voilà. Je pense que la colère est une chose. Quand elle s'exprime, il faut s'arrêter un instant, écouter pourquoi les gens sont en colère, mais il faut quand même insister sur le fait que on ne peut pas vouloir certaines choses totalement contradictoires, comme faire baisser les impôts et avoir plus de services publics sur un territoire extrêmement vaste.
Quand on est dans des logiques comme ça que vous avez fort bien décrites, paradoxales, contradictoires, Hubert Védrine, qu'est-ce qu'il reste comme possibilité à la parole du politique, en l'occurrence à la parole présidentielle ?
D'une façon générale, c'est de plus en plus difficile de diriger, de présider, de gouverner, a fortiori de réformer les démocraties modernes qui sont ultra-individualistes, où les gens sont informés à tout instant, leur propre point de vue, peuvent s'organiser entre eux, sont très impatients, n'attendent jamais les résultats d'une politique. Bon, tout ça n'a plus aucun rapport avec les conditions dans lesquelles on avait imaginé il y a longtemps la démocratie représentative. Donc il y aura de plus en plus de phénomènes de ce genre. Moi, je ne les comparerai pas, on n'est évidemment pas dans les années 30, ça n'a aucun rapport, mais je ne comparerai même pas à d'autres mobilisations du passé. Peut-être à la fin, c'était organisé les printemps arabes au début, par beaucoup de SMS, beaucoup de connexions, beaucoup d'emails, ou sur un plan ludique, la façon dont des fêtes peuvent s'organiser dans une ville, on s'habille en blanc et on a rendez-vous à 18h30 à tel endroit, ça peut rassembler des milliers de gens. Donc c'est des sociétés très, très volatiles, très très poreuse, avec une extraordinaire capacité de mobilisation dont on ignore les suites après. Je voudrais ajouter que je suis d'accord avec Sylvie Goulard quand elle rappelle des évidences, qu'il faut avoir le courage de rappeler, même là, quand les gens sont très énervés, très en colère à cause des phénomènes de perception. Ce qu'elle a dit sur le taux de prélèvement fiscal en France, qui est très 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 élevé, c'est évident. Elle aurait pu rappeler l'endettement de la France, qui est colossal. Je pourrais ajouter que l'impôt sur le revenu est payé essentiellement par les classes moyennes, pas du tout par les classes populaires, par rapport à ça, ou en tout cas le haut des classes moyennes. Donc il y a toute une série de caractéristiques qui sont comme ça, ce sont des choix, hein, mais qu'il faut avoir en tête, et il faut pas, faut écouter, faut analyser, faut comprendre, peut-être trouver des issues, mais on n'est pas obligé de prendre au premier degré l'addition de ce qui est dit sous le coup de la colère. Un gouvernement face à ça, est-ce qu'ils peuvent renoncer à la transition écologique? Non. C'est une question absolument vitale. Ce que j'appelle, moi, l'écologisation, pour montrer que, comme l'industrialisation, ça s'étend sur 10, 20, 30 ans.
D'ailleurs, ce matin, le ministre de l'Environnement, François de Rugy, dit qu'il maintient le cap. Il faut sortir du piège de voiture. Il maintient le fait que le 1er janvier, la taxe carbone augmentera bien, par exemple.
Il ne peut pas renoncer. Sinon, il n'y a plus aucune politique d'écologisation. Peut-être qu'il faut l'expliquer mieux. Peut-être qu'il faut des transitions, plus de comportements. Mais il me semble que la pédagogie politique, au sens fort du terme, de la nécessité absolue, vitale, de l'écologisation n'est pas assez forte. Et que ça concerne tout le monde, là, ça va impacter les gens qui ont besoin de leur voiture pour exister, tout simplement, mais à d'autres moments, ce sera un changement de mode alimentaire ou de mode de construction. Donc il y a un accompagnement à renforcer. Ce que je crains dans les suites, je ne pense pas que ce type de mouvement puisse se structurer énormément, ou alors ils sont récupérés, donc c'est autre chose à partir de là. C'est qu'il faut, ce que je crains dans les mois suivants, c'est la conjonction entre ça et d'autres phénomènes dont j'ignore l'impact, je ne sais pas. Par exemple, le prélèvement à la source. Est-ce que finalement il est vraiment prêt ou pas? Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va entraîner dans l'année 2019, qui est celle des élections européennes, qui sont des élections proportionnelles à un tour? Donc c'est assez facile, sans conséquences politiques intérieures particulières, d'aller exprimer du mécontentement. Donc tout ça peut se mélanger, j'en sais rien, peut-être pas, hein, mais il peut y avoir dans les suites. Il n'y a pas simplement les chiffres du côté des initiatives.
Si vous permettez, non, la suite. Non, la seule raison pour laquelle je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur le changement climatique, et c'est vrai aussi que l'élection européenne
est
une élection
climatique, non, c'est l'écologie,
oui, en général, et l'écologie en général. Non, mais ce que je voulais simplement dire tragique, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que il ne faut pas croire que l'élection européenne n'a pas d'impact sur la vie des gens. Elle a un impact. Une partie de la législation qui s'applique à nos agriculteurs, aux consommateurs, à nos banques, à nos compagnies d'assurance, toute une partie de notre vie dépend de la capacité des instances européennes à fonctionner. Et si on bloque le Parlement européen par un vote protestataire, le seul résultat, c'est que la France ne sera plus en mesure de faire entendre sa voix, et donc on aggrave le problème. C'était la seule remarque que je voulais faire.
Je veux dire que les gens ne le ressentent pas forcément comme ça.
Oui, mais justement, ici, on a l'occasion de le dire.
J'ai pas eu le besoin de le rappeler, mais je veux dire par là que les gens peuvent, dans ce vote, se dire « je suis pas content, je vais voter ».
Oui, mais s'ils le font, ils ne régleront rien. Enfin, moi, j'attire, chacun peut voter comme il veut, c'est la démocratie. Mais encore faut-il ne pas se tromper. Sur
moi, c'est un pronostic, vous, c'est une plaidoirie, élection. C'est différent. Mais
non, c'est pas une plaidoirie, c'est simplement la description de compétences dont les gens n'ont pas conscience.
Ben voilà, ils n'ont pas conscience.
Monique Kantos-Perber, comment est-ce que l'on évite finalement le piège dont on voit bien qu'il est tendu par l'époque, d'une France coupée en deux, j'allais dire d'une Europe coupée en deux, et d'une certaine manière c'est aussi ce qu'on a vu aux États-Unis dans l'Amérique de Trump, c'est-à-dire une France rurale ou périphérique et une France urbaine?
C'est une des questions majeures qui est posée par ce mouvement. D'ailleurs, avoir choisi la dénomination gilet jaune est assez intéressante, puisque le gilet jaune, c'est un gilet de visibilité sur la route pour éviter un accident, c'est un signal d'alerte. Et en même temps, c'est un accessoire très familier, surtout pour les automobilistes. Alors, je voudrais répondre à votre question à deux niveaux. D'abord, sur le problème de l'écologie, parce que c'est une cause que nul ne conteste. Je crois qu'il y a une très grande adhésion de la population sur le but poursuivi, c'est-à-dire changer nos modes de vie de manière à éviter que l'état de la planète ne se détériore davantage. Mais il y a évidemment des protestations, ou du moins des dissensions sur la manière d'y parvenir et qui doit subir en premier lieu l'éventuel fardeau que cela représente. La fiscalité écologique a été tout de même le déclencheur de ce mouvement, est un moyen très efficace pour changer les comportements. Toutes les études permettent de l'établir. Mais c'est un moyen efficace s'il est universel et relativement bien accepté. Or, dans le cas qui nous occupe, il est frappant de considérer que beaucoup de de pollueur, puisque l'idée de cette fiscalité remonte à François Fillon, quand même, le fameux mise en législation du principe pollueur-payeur. Beaucoup de ces mesures sont assorties de très nombreuses exemptions, à commencer par le transport routier. Et de ce fait, le prélèvement, la taxe, est tout de même assez élevé. Alors on pourrait imaginer un système comme cela se pratique dans les pays nordiques, ou du moins dans certains d'entre eux, c'est-à-dire une taxe universelle et de faible montant. Mais évidemment, cela n'est acceptable que si c'est tout à fait expliqué. Parce que l'ennui de la fiscalité écologique telle que nous l'avons, c'est qu'elle frappe principalement les ménages. Et par la force des choses, ceux qui en pâtissent le plus sont les ménages à ressources limitées. Ceux d'abord dont les dépenses contraintes sont très élevées, ça va entre 40 et 60% selon les cas, et qui par ailleurs ressentent d'autant plus la baisse de leur pouvoir d'achat que leurs revenus sont modestes. Pour quelqu'un qui a des revenus confortables, c'est beaucoup moins sensible. Et j'ajouterais presque une double peine pour les plus démunis. Il va de soi que ceux qui ont besoin d'une voiture pour travailler, pour vivre, sont plutôt des personnes de revenus modestes. En tout cas, qui ont été obligés de s'éloigner des centres-villes ou de s'éloigner des lieux où ils peuvent trouver, où elles peuvent trouver un travail. Et par ailleurs, c'est
même si en théorie, à partir de 60 km de trajet par jour, l'État semble s'engager.
Oui, mais là, on est dans des mesures de compensation. C'est assez bizarre de faire une mesure qui a besoin d'être compensée par des traitements préférentiels. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans la conception même de la mesure. Et puis n'oublions pas qu'il y a des évolutions urbanistiques qui amènent à concevoir les villes différemment. On construit des technopoles en dehors des villes, on construit des centres de loisirs, des centres commerciaux en dehors des villes, on diminue le nombre de tribunaux, on diminue le nombre d'hôpitaux. Donc les personnes sont nécessairement obligées, du moins en province ou dans la périphérie, à la campagne ou dans la périphérie des villes de province, de se servir de leur voiture. Sinon, elles ne peuvent pas vivre et les transports en commun qui peuvent être éventuellement efficaces et adaptées pour les trajets banlieue, agglomération et Paris, ne le sont pas pour la périphérie des villes de province et ne le sont absolument pas de banlieue à banlieue. Il y a 3 autobus ou 3 autocars par jour. Donc forcément, les personnes se sentent d'une certaine manière limitées dans leurs revenus et limitées aussi dans leur capacité de circulation. Alors, quand même, la liberté de circuler, c'est peut-être un tropisme de ma génération, mais c'est une liberté importante. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que parallèlement à ces mesures, étrangement, notre président annonce qu'il va faire baisser drastiquement le coût du permis de conduire et faire apprendre le code de la route à l'école, à l'intégrer dans les programmes scolaires.
Peut-être avec des véhicules hybrides et électriques. Demande...
Alors, pour revenir juste un mot encore sur le malaise plus général, notre président, encore une fois, nous dit qu'il n'aime pas les gens qui mélangent tout et qu'il ne faut pas parler de tout et n'importe quoi. Il est certain qu'à l'origine du malaise qui s'est exprimé hier, de manière assez spectaculaire et parfois dramatique dans certaines situations, a une multiplicité de facteurs causaux. La fiscalité écologique a été le déclencheur, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et il est vrai que le discours public est sur ce point franchement défaillant. Pour faire accepter des mesures difficiles, il faut les faire assumer et partager aussi largement que possible. Il faut en donner les objectifs, organiser une temporalité qui les rende acceptables et surtout ne pas monter les uns contre les autres.
C'est pourquoi depuis le départ, je vous interroge en effet sur la parole politique après ce genre d'événement. Lorsque Ségolène Royal, Aurélie Filippetti, dit hier soir « il faut trouver un débouché démocratique à cette colère » ou que François Hollande dit « il faut l'entendre, il faut l'écouter cette colère », qu'envoie-t-il comme message à Emmanuel Macron et en quoi Emmanuel Macron n'entend pas cette colère ou n'y trouve pas de débouché démocratique ou de parole publique ?
Non, je pense que l'enjeu, c'est qu'il entend très bien cette colère. Le président de la République n'est pas complètement sourd, il comprend bien qu'il y a un problème. Mais la question, c'est comment, au fond, répondre à pour moi, la question de l'inégalité, elle est quand même cruciale dans ce mouvement ou dans ce type de mouvement. Si les gens aujourd'hui se révoltent, les gens des classes moyennes, qui payent l'impôt, justement, et qui ont l'impression d'en payer beaucoup et d'être un peu les seuls à en payer. C'est-à-dire que les classes très populaires n'en payent pas, enfin, ne payent pas l'impôt sur le revenu, parce que tout le monde paye la TVA, bien sûr, qui est quand même celui qui rapporte le plus d'argent. Mais eux, les classes moyennes ont le sentiment que, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, notamment, ils sont les seuls à en payer. Et c'est pas complètement faux. Mais ils ont ce sentiment que, d'un côté, ils n'ont plus, finalement les services qu'ils avaient auparavant, et de l'autre côté que les très riches y échappent. Et donc cette inégalité, elle est quand même à la base de cette colère. Et ensuite on leur dit, bon ben voilà, on a un défi qui est le défi écologique. Et ce défi qui est évidemment absolument majeur et prioritaire, comment on va l'aborder? Et c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là que François Hollande et par ailleurs Ségolène Royal, qui je le rappelle, a annulé une décision qui avait été prise à l'unanimité de l'Assemblée nationale en 2011, qui consistait à créer des portiques sur les autoroutes pour rendre nos autoroutes payantes, notamment aux camions de transport de marchandises. C'était l'affaire d'Ecomouv'. Cette décision d'annulation de ce vote démocratique, absolument scandaleuse.
Donc vous les trouvez mal placés dans le débat?
Ah oui, ils sont très mal placés pour donner des leçons là-dessus. Mais le problème, c'est comment on fait pour effectivement changer nos comportements, parce que c'est ça qu'il faut faire, pour faire face aux défis écologiques. Et la fiscalité écologique, elle n'a de sens que si elle est progressive, c'est-à-dire que par exemple dans les pays nordiques, en Suède, etc., on a été mis en place une taxe carbone, mais d'une manière extrêmement lente et progressive, pour accompagner au fond l'évolution des comportements des gens. Si les gens du coup ont aussi des solutions alternative. Si vous n'avez pas de solution alternative à la voiture pour vous rendre sur votre lieu de travail, eh bien vous voyez arriver l'augmentation de vos coûts de transport et vous vous dites, oui, mais moi je peux pas prendre le train.
Même si les correctifs, j'y reviens, qui ont été annoncés cette semaine par le président de la République existent, ils vous semblent secondaires, dérisoires, incompréhensibles? L'aide à 4000 euros, les dispositifs qui sont importants d'un point de vue budgétaire.
Les gens les perçoivent comme quelque chose de temporaire, ce qu'ils seront, assurément. C'est-à-dire que ça va être valable un an, peut-être deux ans, mais ensuite non. Et donc, en fait, ça ne résout pas le problème. Et, accessoirement, c'est pas ça qui permet de trouver des solutions alternatives, par exemple, au transport. Parce que, je considère que Emmanuel Macron, comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, n'ont pas suffisamment mis en priorité des priorités la question écologique, qui ne touche pas que les transports, mais qui touche notamment la question du logement. Parce qu'au fond, ce qui pose problème aujourd'hui à ces classes moyennes, c'est que pendant les 30-40 dernières années, on a poussé les gens à s'éloigner des centres-villes pour aller vivre dans des zones périphériques, dans un habitat dispersé, donc mité et pas du collectif, et donc avec un étalement urbain, par ailleurs qui prend des terres fertiles, etc., et donc des coûts de transport extrêmement importants. Et c'est-à-dire, là, on ne fait rien face à ça.
Une problématique d'aménagement du territoire et au-delà, Sylvie Goulard, du malaise, du désarroi de ces classes moyennes françaises, mais également européennes, qui a déjà été fort bien analysée par un certain nombre de sociologues. On pense par exemple à Christophe Guilly, qui a beaucoup consacré de travaux justement à la fin de la classe moyenne occidentale. On pense aussi aux travaux du chercheur du CNRS Alexis Spire, qui a beaucoup travaillé sur la résistance à l'impôt et en même temps à cet attachement à l'État qui perdure, là encore, impuissance de la parole publique, de la parole politique?
Je crois que ce n'est pas seulement une question de parole, même s'il y a effectivement un travail de pédagogie à faire, ce sont des actes aussi. Quand Aurélie Filippetti dit qu'on a construit à la périphérie des villes, il y a eu des plans d'urbanisme qui ont été adoptés par des mairies. Il y a des régions, moi je viens de la région d'Aix-Marseille, où on n'a pas investi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut avoir des transports en commun. Entre Aix, Marseille, Aubagne, Toulon, Vitrolles, on pourrait très bien imaginer un réseau de trains assez rapide. Ce n'est pas beaucoup plus grand.
Mais il n'est pas actuellement
oui.
en service.
Non, mais c'est la vraie question de à quoi a été utilisé l'argent public. La France a une dette considérable. Est-ce qu'on a investi? Et encore une fois, ce n'est pas des décisions des dernières années. C'est sur, comme Aurélie l'a rappelé, sur 20 ou 30 ans. Nous n'avons pas investi dans des transports collectifs suffisamment. Nous avons fait des choix d'habitat, de préservation du patrimoine des centres-villes. C'est très frappant quand on voyage en Europe, comme la France a des centres-villes préservés. Il y a très peu de gratte-ciel, il y a très peu de concentration urbaine, comme on peut le voir dans d'autres villes. Donc ça, ce sont des phénomènes, je crois, qui se sont déroulés sur du temps qui est relativement long. Et on ne peut pas dire aux gens, on va tout changer du jour au lendemain. En revanche, je pense que c'est une question qui doit être posée. Quand vous parlez aussi du rôle des politiques, moi ce qui me frappe beaucoup, mais là encore une fois je prends la casquette européenne et je vois ce qui se passe dans d'autres pays. Les questions, les choix budgétaires sont beaucoup plus débattus dans d'autres pays. On peut aimer ou pas aimer, on l'a senti au moment du sauvetage de la Grèce. Pourquoi il y a eu une telle émotion en Allemagne? C'est aussi parce que tous les choix budgétaires du Bundestag, du Parlement allemand, sont au centre du débat public. La France est un des rares pays où on parle d'argent public. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on parle d'argent du contribuable. Les Anglais disent « taxpayer's money ». Et pour ma part, je crois que c'est important d'expliquer aux gens que l'argent public ne pousse pas sur des arbres.
Pédagogie de l'impôt.
Non, mais voilà. Et que donc, il y a des choix, et que ces choix en démocratie doivent être faits par les parlements, par le parlement au niveau national, par le conseil municipal au niveau municipal, dans l'assemblée de la région au niveau régional, etc. Et que ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont un certain nombre d'actes. Et quand les citoyens votent, peut-être faut-il qu'ils tiennent compte justement de ces décisions, au lieu, comme vous le dites, de vous en remettre à, en permanence en France à cette idée qu'il va y avoir un homme, oui, pas, jusqu'à présent pas une femme, mais providentielle, qui pourrait venir tirer les citoyens de leurs difficultés.
Est-ce qu'il y a une résistance spécifique française à l'impôt, en effet, Hubert Védrine ?
Non, on rappelle depuis le début que c'est le pays au monde le plus imposé. Donc s'il y avait une résistance, tout le monde serait dans les rues avec des fourches. Il y a une résistance qui s'exprime.
On aurait du mal à trouver les fourches, d'ailleurs.
Oui, maintenant. On trouve peu de fourches, forcément. On trouverait autre chose, un téléphone. Et donc, il n'y a pas une résistance spéciale. Le niveau de pression fiscale est exagéré, surtout par rapport au fait que les résultats ne sont pas suffisants et que les gens sont quand même mécontents. Bon. Non, il n'y a pas un phénomène français, il est dans l'autre sens. Moi, je pense que, en ce qui concerne l'écologisation, j'y reviens, ça va durer 10, 20, 30 ans. Enfin, ça commence maintenant, ça a déjà commencé. Et les calendriers ne seront pas les mêmes, en fait. Parce qu'écologiser l'industrie, ou la chimie, ou l'énergie, ou l'agriculture, les transports, c'est exactement la même chose. Il faut une pédagogie, j'y reviens, beaucoup plus intense, beaucoup plus assumée, de la part de toutes les autorités européennes, nationales, locales et tout ce qu'on veut. Il faut que les aspects fiscaux soient un élément parmi d'autres. Parmi d'autres, ça ne peut pas être que la fiscalité. Elle est importante à certains moments pour orienter, mais il y a aussi l'explication, l'invention, avoir le choix. Des options, ça ne sert à rien de se déchaîner contre les gens qui sont sur des poids lourds s'ils n'ont pas une autre option. Ça ne sert à rien d'engueuler l'agro-industrie si les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que le pesticide qui est toxique, on a inventé d'autres. Bon, il y a un travail gigantesque qui repose beaucoup sur les inventeurs, sur les chercheurs, sur les ingénieurs. Et là, la fiscalité peut accélérer, peut encourager, pour faciliter ceci, cela. Mais ça va durer pendant plusieurs dizaines d'années, hein, cette affaire de transformation géante.
Sauf et que là, le groupe sur le climat, c'est en octobre 2018, le groupe international d'experts, a tiré la sonnette d'alarme, puisque par rapport à l'accord de Paris de 2015, oui. Et je suis d'accord avec vous, ça prendra du temps, mais il faut qu'on accélère. Je crois qu'il ne faut surtout pas laisser entendre qu'on aurait beaucoup de temps.
Ah non, c'est pas ça que je veux dire.
C'est sûrement pas ce que vous voulez dire, mais j'ai peur parce que...
Il y a longtemps, moi j'étais à la réunion de Rio, Genève en 94 avec Mitterrand, je vois bien la durée de la prise de conscience. C'est absolument urgent. 12. Ça a commencé dans des tas de domaines. Il y a des inventions très intéressantes toutes les semaines, partout, dont on ne parle pas assez. Qui montre qu'on arrive par une affaire d'issimenterie qui recycle à 99%, qui montre qu'on a trouvé une molécule qui est moins dangereuse, qui montre des tas de trucs. Il faut que ce soit encourageant. Ségolène a eu raison il y a quelques années de dire qu'il ne fallait pas que ce soit punitif. Mais donc, il faut avancer sans arrêt et offrir des options. Après, il y a la question qui est complètement différente de comment on traite dans les démocraties modernes une espèce de vague gigantesque de mécontentement fondée sur des perceptions, certaines fondées, d'autres complètement imaginaires. Comment ça se traite, c'est une question politique, ça.
Mais il faut y répondre. C'était la dernière question que je voulais vous poser.
J'aimerais intervenir sur ce point également. En tout cas, la manière dont il a été répondu montre la faillite du travail pédagogique, la faillite de l'explication. Cette décision n'a pas du tout été partagée. Alors, évidemment, le meilleur moyen de faire en sorte que des enjeux tout à fait importants, comme celui qui se présente devant nous, c'est-à-dire assurer la transition énergétique, la transition en tout cas écologique, puisse être partagée par tous, c'est d'organiser une information honnête, de permettre au Parlement de jouer un rôle extrêmement actif, puisque le Parlement rassemble les représentants de tout le peuple, et pas simplement de la partie du peuple qui a voté pour le gouvernement ou pour ceux qui sont au pouvoir actuellement. Or, cela, d'une certaine manière, a été raté. Et il est frappant de voir à quel point, pour les personnes qui ont été interrogées, d'après les témoignages que j'ai lus, il y avait le sentiment de se confronter sans cesse à une forme d'indifférence et d'autosatisfaction. Chacune de ces mesures, ou chacune des mesures prises, dans le meilleur des cas, admettons qu'elles soient justifiées, encore que les débats soient nombreux sur ce point, mais on explique aux personnes que c'est pour le bien du pays et assurer la transition écologique la fiscalité augmente. On explique aux retraités que c'est pour que les jeunes aient un travail plus facilement, que leur CSG a augmenté. Et lorsqu'ils disent qu'ils aident également leurs enfants, c'est à peine audible. On explique aux chômeurs que le chômage va diminuer si on diminue la fiscalité, si on supprime la fiscalité sur la fortune mobilière. Tout ça peut être justifié. Et encore, je ne m'engage pas sur ce point, mais il reste que pour ceux qui vivent une détérioration majeure de leur mode de vie, un sentiment de dépossession accru, ces explications qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, d'une certaine manière, n'arrivent pas à remédier à ce sentiment.
Moi, ce qui me frappe,
et c'est un signe de malaise majeur qui ne fera que commenter.
Les Français disaient sans arrêt que leur niveau de vie baissait dans les sondages. Oui. Donc ça donne pas une solution, cette analyse.
C'est
la répercussion du mécontentement.
Aurélie Philippe, c'est que sur l'écologie, les Français aspirent à une véritable politique écologique. Et ils sont inquiets.
Oui, en même temps, 65% des Français ont l'air d'approuver ce mouvement des
gilets jaunes. Ce n'est pas antinomique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les mêmes personnes qui peut-être hier étaient dans la rue vont peut-être, aux prochaines élections, choisir des candidats écologiques. Et pourquoi? Donc ça veut dire que c'est un appel. Et ils disent, attention, faites quelque chose pour à la fois traiter la question écologique, mais aussi pour protéger notre pouvoir d'achat et, quand même, c'est pas un détail, nos emplois. Et là, l'Union européenne aurait quelque chose à faire. Parce qu'on a parlé de taxe carbone. Il y a une proposition simple qui consiste à dire, pour protéger l'industrie européenne, il faut finalement intégrer les coûts de transport, par exemple, des marchandises chinoises. Quand elles arrivent en Europe, évidemment, elles ont beaucoup pollué la planète au passage. Donc, intégrer ce coût de transport, c'est dire, on fait une taxe carbone, mais aux frontières de l'Union européenne. Ce qui permettrait, par exemple, de protéger notre industrie de l'acier en Europe, et donc de protéger les emplois et le monde du travail. Et là, ça donnerait l'impression que les politiques font quelque chose pour les classes moyennes et les gens qui travaillent.
Alors, taxe carbone, là, entre
nous. J'ai peur que ce soit un peu inutile. Allez, on va précisément aller prendre des nouvelles de l'Union européenne et du vaste monde, et notamment de la Grande-Bretagne, toujours empêtrée dans le chaudron du Brexit.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Dans cette affaire si complexe et si confuse du Brexit et de la crise politique que traversait la Grande-Bretagne, il y avait à ce jour trois issues possibles. Soit le projet de Theresa May était adopté, qui prévoyait le maintien de l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Europe, ce qui semblait mal parti. Soit on s'orientait vers un Brexit sans accord avec les Européens, soit un retour à la case départ, un nouveau référendum. Que d'adversité, et ce depuis tant d'années, pour l'aventure européenne. Et qui la voulait encore, cette Europe qui avait déclenché cette semaine les tweets rageurs du président américain? Exaspéré par la volonté française et allemande de relancer le vieux serpent de mer d'une armée européenne, Trump avait, avec cruauté, rappelé 14-18 et 39-45 et cette Europe, incapable de sortir seule de ses conflits, qui devait toujours son salut au grand frère américain. Et puis il y avait eu, dimanche 11 novembre, cette image qui n'avait échappé à personne. Le président Poutine se dirigeant spontanément vers son homologue américain pour lui serrer la main, avant de lui faire le signe du pouce levé, tout sourire, comme s'il félicitait Trump d'avoir calmé les ardeurs européennes du président Macron. Cette Union européenne que Poutine voyait depuis toujours comme une autre forme d'empire rival qui menaçait le sien, celui qu'il s'évertuait à reconstruire. Ce 11 novembre 2018 à Paris avait par ailleurs été boycotté par deux dirigeants européens. Le Polonais Kaczynski, qui tenait Macron pour le symbole d'un européanisme détesté, à l'instar de Viktor Orban, le dirigeant hongrois. Enfin, ce dimanche, le couple Macron-Merkel se retrouverait de nouveau à Berlin avec un discours du président français devant le Bundestag, parler, reparler du couple franco-allemand des vertus de l'Alliance européenne. Au fond, cette semaine de Berlin à Paris, de Budapest à Varsovie, de Moscou à Washington, en passant par Londres, on se posait la même question. Qui voulait encore de l'Europe? Qui voulait sa peau?
Le président américain n'a visiblement pas digéré la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne. Donald Trump l'avait déjà jugée très insultante lors de son atterrissage en France le week-end dernier et il y a fait allusion une nouvelle fois ce mardi dans ses tweets.
Emmanuel Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l'Europe contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était l'Allemagne dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Comment ça a marché pour la France? il commençait à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent.
Nous devons, et je le dis de manière très consciente, à la lumière des développements de ces dernières années, nous devons élaborer une vision nous permettant un jour de parvenir à une véritable armée européenne.
Ce sont surtout les partisans d'un Brexit dur qui demandent la tête de la Première ministre et qui réclament, comme Jacob Rees-Mogg, une motion de défiance.
On a besoin d'un dirigeant capable de dire à l'Union européenne « Diviser le Royaume-Uni, c'est impossible. Et c'est impossible aussi de rester dans une union douanière perpétuelle. Le problème, c'est que sur tous les points clés de la négociation, on a cédé. »
Commençons, Hubert Védrine, par parler de cette actualité du Brexit et d'abord peut-être un peu de pédagogie. Rappelez-nous ce qu'il y a dans ce projet d'accord de Theresa May, en quoi il déplaît à ce point à certains conservateurs.
Il déplaît aux Brexiteurs durs parce que ce n'est pas une sortie radicale et complète, parce qu'elle veut rester dans l'union douanière. Donc il y a des gens qui veulent sortir totalement. Mais par rapport à votre question, ce n'est pas des ennemis de l'Union européenne, ils veulent s'en dégager. C'est ça leur idée, s'en dégager complètement. Alors ils n'y arrivent pas, elle-même conclut que ça n'est pas possible, elle trouve une côte mal taillée. Donc ces maximalistes sont furieux, on verra la suite. Mais ce n'est pas à mettre sur le même plan que ceux qui seraient véritablement contre l'Union européenne en tant que telle. Et moi je pense qu'il ne faut pas exagérer ça. Je sais bien, comme l'a dit Woody Allen, que même les paranoïaques ont des ennemis, mais je trouve ça un peu parano, alors que la vraie question pour moi du projet européen, c'est plutôt le décrochage interne. Alors évidemment que les Américains ne veulent pas une Europe trop autonome, ils la subventionnent, ils la protègent, ils la garantissent depuis 70 ans. Ça les énerve quand on parle même d'un pôle européen dans l'Alliance, rien que ça, ça les énerve. Bon, mais c'est pas nouveau, c'est pas que Trump. Et puis Poutine titille le système exprès pour se venger de la fin de l'URSS et de la façon dont on l'a traité au début. Puis tout le monde, et puis les Israéliens, et puis les Turcs, et puis Daesh, et puis la Terre entière, bon, essaient d'utiliser les faiblesses du système. Mais pour moi, c'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est qu'il y a maintenant en Europe, en plus des vrais anti-européens idéologiques qui ne bougeront pas, il y a tout un ensemble de gens qui sont simplement des déçus, des gens devenus sceptiques. La presse dit sceptique pour les anti, mais les sceptiques, c'est autre chose en fait. Donc devenus sceptiques alors qu'ils n'étaient pas forcément contre et qui peuvent redevenir pour. Et puis tous les allergiques à ce dont Juncker parlait au début, c'est la réglementation à outrance. Il y a tout un ensemble de gens qui pourrait redevenir pro-européen, ça dépend de la façon dont le projet est reformulé. Et je pense que le vrai danger, bien avant les menaces externes, bien avant le fait qu'il y ait des méchants qui en veulent à l'Europe, qui veulent l'empêcher de faire je ne sais quoi, c'est ça le problème, numéro un. Et c'est là-dessus que les dirigeants européens d'aujourd'hui ont un défi énorme à relever, à mon avis.
Est-ce qu'il fait sens, en effet, Sylvie Goulard, de lier ce qui se joue en ce moment avec le Brexit, avec l'avenir de l'idée européenne? Est-ce que si on regarde cela, en tout cas notamment de France, avec autant d'intérêt et parfois un peu d'effroi, c'est parce qu'on sait bien que ce qui va se jouer ces prochaines semaines en Grande-Bretagne dit quelque chose sur l'avenir de l'Union européenne?
Donc, il y a à la fois des questions internes et des questions externes. Moi, je serais quand même plus vigilante sur la coalition d'ennemis de l'Union européenne dont désormais le plan est de la détruire. Lorsqu'il est allé voir M. Poutine, c'était en juin-juillet, Donald Trump a qualifié l'Union européenne d'ennemi. Nous avons une infiltration de nos réseaux sociaux.
L'ennemi commercial, vous êtes d'accord?
Non, il a dit ouais. L'Union européenne est l'ennemi. Et je crois que c'est à la fois sur le plan commercial, qui est l'une des rares réalisations européennes dans laquelle nous sommes liés, mais ça se voit dans d'autres plans. Lorsque les États-Unis empêchent l'Europe de maintenir un accord de non-prolifération nucléaire avec l'Iran, en faisant peser sur nos entreprises la menace...
Le monde. Pas
oui,
l'Europe.
Pas seulement l'Europe, mais...
Les Russes et les Chinois sont co-signataires.
Mais il est probable que leurs entreprises, qui ont beaucoup moins de liens avec les États-Unis, se retrouvent dans une situation un peu différente des nôtres. L'intégration transatlantique fait que l'impact de sanctions des Américains, encore une fois pour un traité que les Européens et les autres signataires veulent maintenir et que les Américains sont les seuls à dénoncer de manière unilatérale, l'impact sera plus grand pour nos entreprises. Mais pour en revenir à l'interne et au Brexit, je crois que le Brexit est en train de démontrer aussi à quel point les personnes qui ont suivi les différentes voies qui les ont entraînées vers cette décision ont été d'une certaine manière profondément manipulées. D'abord, on leur avait dit qu'il y aurait des gains immédiat, direct. Moi, j'ai vu au Royaume-Uni les bus sur lesquels il était écrit 350 millions de livres par semaine pour le Service national de santé. Monsieur Farage a dit dès le lendemain du vote que c'était des sornettes et qu'on ne verrait pas cet argent. On a eu des personnes qui ont totalement sous-estimé ce qui était d'ailleurs en fait le résultat d'une politique activement voulue par les Britanniques, qui était de créer un marché intégré dans lequel on avait des biens qui circulaient. On a des emplois au Royaume-Uni qui dépendent d'investisseurs étrangers qui sont venus s'installer là parce qu'ils avaient accès au marché intérieur. L'alimentation des Britanniques s'est transformée. Ils importent beaucoup plus de produits agricoles de l'intérieur de l'Union européenne. La question de la paix en Irlande avait pu être largement réglée par des accords qui sont le mérite des deux parties, mais aussi parce que c'était adossé à un marché qui abolissait la frontière, qui permettait aux gens d'aller travailler des deux côtés, produits agricoles irlandais de passer des deux côtés, etc. Donc ce que je crois, c'est qu'on a plus, il y a plusieurs lectures possibles du Brexit. Il y a des gens qui disent mais ça, c'est une manifestation de désamour envers l'Europe. Et effectivement, puisqu'on a prévu, il y a des gens qui ont voulu en sortir. Mais quand on analyse de près où on en est 2 ans et demi après, on se rend compte qu'il y a au Royaume-Uni beaucoup de gens qui se demandent s'ils ont pris la bonne décision. On se rend compte en tout cas que ça a un coût infiniment supérieur à ce qu'on avait dit aux Britanniques. Et parce que là, on a un peu tout mélangé, mais juste pour la pédagogie, il y a deux choses différentes. Il y a l'accord de sortie, hein, la manière dont le pays sort de l'Union européenne. Et c'est dans cet accord de sortie que Mme May a accepté de manière transitoire le maintien dans l'ensemble de l'Union douanière, etc. Et puis ensuite,
c'est un accord qui sera présenté au Parlement britannique début décembre,
avant le Brexit prévu en mars. Et dont on ne sait pas s'il sera adopté et qui doit être également voté par le Parlement européen pour aboutir, si possible, et je crois que ça serait objectivement mieux pour tout le monde, à une sortie ordonnée et non pas une espèce de chute dans le vide sans savoir ce qui se passe. Mais ensuite, il y a la relation future. Et là aussi, je dirais que les approximations des partisans du Brexit sautent aux yeux. Ils avaient quand même fait miroiter des choses qui ne sont pas faciles à obtenir, comme des accords commerciaux avec le reste de la planète qui seraient particulièrement favorables à la place financière britannique, à la production au Royaume-Uni. Et je dirais que la pire arnaque, et ça fait le lien avec le premier sujet de tout à l'heure, c'est que pour dépasser les 50%, il y a eu un vote qui était un vote, je dirais, de grand large, de tous ceux qui veulent pouvoir se libérer des règles européennes, de tous ceux qui veulent pouvoir avoir des accords commerciaux très bénéficiaires et en gros aussi de faire du dumping social, environnemental, etc. Et vous avez aussi ce vote de ce que David Goodhart, le sociologue, appelle les « somewhere », c'est-à-dire les gens enracinés dans les anciens territoires industriels du nord de l'Angleterre et qui, eux, demandent exactement l'inverse, qui demandent de la protection, qui considèrent que l'Union européenne n'a pas servi leurs intérêts. Je ne veux pas être trop longue, mais c'est pour dire que attendons quand même la fin du processus de Brexit, si tant est qu'on sache où on va, avant de dire que finalement ça conforte l'idée que les peuples ne veulent plus de l'Europe. Je crois que nous avons un exercice de vérité où nous pouvons aussi faire apparaître, bien sûr, tous les défauts, il y en a, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais aussi les avantages que nous procurait la vie ensemble. Et ces avantages, sincèrement, que ce soit le mandat d'arrêt européen qui a permis de traquer des criminels au Royaume-Uni en s'appuyant sur les services judiciaires d'autres pays, que ce soit la paix en Irlande, que ce soit des jobs, que ce soit la libre circulation des personnes, ça n'était pas non plus complètement négligeable.
Monique Kantos-Perber, comment vous aussi, avec votre regard de philosophe, vous regardez cet imbroglio britannique et ce qu'il dit de nos ambivalences d'Européens à l'égard de l'Europe, y être ou ne pas y être? To be or not to be.
Je trouve que ça a été une occasion de négociation où l'Europe a tout de même repris la main. Et je dois dire que j'en suis assez satisfaite, d'ailleurs sur deux autres questions donc, que j'évoquerai brièvement, la question d'Italie et la question de l'Europe de l'Est. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que face à un Royaume-Uni qui s'est empressé dans l'euphorie du vote de Brexit, en tout cas pour la majorité qui a été, enfin pour la Première ministre, et qui s'est empressé d'activer l'article 50 sans aucune idée de ce qu'ils espéraient, de ce que le Royaume-Uni pouvait réellement attendre du Brexit, et qui n'a cessé d'errer. Tout le monde répétait Brexit means Brexit, mais personne ne savait ce que ça voulait dire en fait. L'Europe a été tout de même le point fixe dans ces 2 ans et demi d'errance. Et un point fixe qui a fait passer des messages qui ne peuvent que conforter la construction européenne. Le premier message, c'est dans la négociation d'avoir posé le droit des personnes comme une première chose à respecter, le droit des expatriés et le droit des citoyens européens installés aux États-Unis, installés au Royaume-Uni et la prééminence des juridictions européennes. d'avoir ensuite posé le point fixe de la frontière irlandaise. C'est une frontière qui a mis fin à une terrible guerre civile. C'est un acquis, comme cela a été rappelé, soutenu, appuyé sur l'Union européenne. Et le fait de l'avoir mis en avant, alors qu'il semble que les Brexiteurs n'aient pas réellement envisagé les problèmes que cela poserait, était une excellente chose à mettre au crédit des négociateurs européens. L'Europe a défendu l'intégrité et la cohérence du marché unique comme système de normes avec les juridictions assorties. Système de normes, système de conformité des produits. Et ça, c'était une bonne chose. D'ailleurs, si j'ai bien compris, le Royaume-Uni va provisoirement y rester en attendant que des accords soient conclus, puisqu'on ne fait qu'ouvrir sur une autre période.
Non, c'est pas. C'est ce qui est intégré également dans l'accord. Oui.
L'union douanière, la cohérence de l'union douanière. Et a eu suffisamment de souplesse pour proposer un calendrier d'adaptation. Donc ça a été tout de même une réussite majeure pour l'Union européenne qui montre qu'en cas de crise, en cas de difficulté, elle peut réagir en mettant en avant ses valeurs, ses engagements fondamentaux, au point qu'en effet, maintenant que les illusions du Brexit sont dissipées, on peut se demander s'il est démocratique d'appliquer cet accord sans revenir devant le peuple, parce qu'on est avec cet accord si loin de ce que les personnes avaient en tête lorsqu'elles ont voté pour le Brexit, qu'une démocratie strictement entendue, axée sur les contenus, amènerait à recourir de nouveau à un référendum d'approbation. Mais au moins, l'Europe a résisté à la dislocation. Elle n'est pas une shopping list. On prend les avantages et on s'écarte des inconvénients. Juste un mot sur l'Italie et l'Europe de l'Est. Nous sommes aujourd'hui dans une situation intéressante par rapport à l'Italie, puisque le gouvernement italien le 13 novembre expiré le délai que la Commission avait donné au gouvernement italien pour réformer son budget, et le gouvernement italien a décidé de n'en tenir aucun compte. Alors il y aura probablement la mise en route d'une procédure pour déficit excessif acquise au Conseil européen de décembre, avec des admonestations, avec des délais, avec un programme, et on verra comment les choses se passent. Mais ce qui est frappant, c'est que l'Europe a affirmé sa position, elle a affirmé sa crédibilité, elle ne pouvait quand même pas faire autrement, mais avec le risque quand même que pour finir, ce soit les marchés qui obligent les Italiens à changer leur budget et pas l'Europe, avec ce que ça pose en termes de démocratie. Et il en est de même pour l'Europe de l'Est. La procédure contre le gouvernement hongrois a été lancée mi-septembre. L'Europe ne cesse de dire « il ne peut y avoir de choix », la Commission, je cite, « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Il reste que les peuples ne vont pas l'apprécier comme cela. Alors, l'Europe a affirmé ses valeurs, ça a été une réussite totale pour le Brexit, et on attend de voir ce qui va se passer pour l'Italie et l'Europe de l'Est. Mais dans les deux cas, on a ici, dans les trois cas, on a un concentré de ce que l'Europe peut faire de mieux et des questions que pose la démocratie européenne face aux démocraties souveraines des États qui la composent.
Merci Monique Kantosberger. Face aux trois images géopolitiques de la semaine, Aurélie Filippetti, Macron-Merkel, qu'on va voir de nouveau ensemble aujourd'hui avec le discours du président Macron devant le Bundestag, de nouveau un discours sur l'importance du couple franco-allemand, sur l'importance de l'Europe, le chaudron du Brexit, on en a parlé, et puis cette alliance étrange qu'on a cru voir, en tout cas à l'image, visuellement, entre Vladimir Poutine et Donald Trump cette semaine au sujet de ce serpent de mer qu'est la défense ou l'armée européenne.
Oui, en fait, c'est un petit peu l'image du pouvoir des autocrates, des démagogues qui aujourd'hui ont vraiment le vent en poupe, hein, parce que ce soit Trump, Poutine, Erdogan ou à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, évidemment, Orban, Salvini, etc., le polonais, contre Kaczynski. Un modèle qui est un modèle plus démocrate, ou en tout cas de démocratie libérale, incarnée par les autres dirigeants européens. Et pour moi, la crise de l'Union européenne, de ce moment qu'on traverse, c'est vraiment une crise de la démocratie et du modèle démocratique sur lequel repose l'Union européenne, qui est un modèle extrêmement complexe. C'est-à-dire que, évidemment, il s'agit de construire une forme de souveraineté européenne sans nier les souverainetés des États membres, ce qui, c'est
quand même, d'un point de vue à la fois philosophique et politique, très subtil. Et en face de ça, on a des gens qui fonctionnent selon des modes de raisonnement très simplistes et très binaires, et d'affirmation de pouvoir, au fond, autocratique. Et ce qui s'est joué le week-end dernier, ce week-end du 11 novembre, ça a été ça. C'était finalement que tout, que les Trump, Poutine et autres disent aux dirigeants européens qui essayent de maintenir l'idée, au fond, de ce modèle de démocratie libérale cher à Monique, Cantos Perber, cher à nous tous, c'est leur dire finalement, ça ne marche plus. Et c'est nous qui, aujourd'hui, au fond, par à coup de tweet, à coup de communication outrancière, à coup de communication violente, parce que ce qu'a fait Donald Trump est extrêmement violent, surtout, pardon, le jour de commémorer un armistice. C'est, je dirais, c'était...
Pas avec lui, l'armistice.
Mais enfin, le symbole, c'était quand même la paix, le Forum mondial de la paix, etc. Et lui fait des déclarations absolument
belliqueuses.
Belliqueuses. Donc, je pense que ce qu'il faut qu'on réinvente, et c'est de nouveau une espèce de fierté de ce que l'on défend. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase d'Angela Merkel qui disait « Si aujourd'hui on devait voter la Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on réussirait encore à la faire adopter à l'échelle internationale comme on l'a fait en 1948 ?» C'est une phrase...
À l'époque, il y avait 49 pays. Hein.
Oui, bien sûr, mais...
On était entre nous, quoi.
La légitimité a été quand même...
Donc elle a raison, on n'y arriverait pas aujourd'hui.
On n'y arriverait pas, mais bien sûr qu'elle a raison. Et ça doit quand même nous interroger, parce qu'au fond, nous reposons tout notre raisonnement repose sur l'idée que ça, ce sont des valeurs universelles, etc., que c'est acquis pour toujours.
Hubert Védrine.
Sur quel point ?
En réponse à Éric Lippetti, puisque vous aviez l'air de...
Je viens de répondre. Non, mais je souligne que Merkel a raison, on n'y arriverait pas, parce qu'il y a 197 pays aux Nations Unies, le U est trop d'ailleurs, alors qu'à l'époque, il y en avait 49. Mais très vite, ce que Trump a pris en otage, pas spécifiquement l'Europe, même si ça nous pénalise plus, mais il a une façon absolument effrayante et scandaleuse, extra-territoriale, unilatérale, pas du tout isolationniste, de paralyser l'ensemble de l'économie dollarisée, numérisée, pour appliquer sa politique folamour sur l'Iran. Bon. Deuxièmement, sur la question du Brexit, il n'est pas du tout contagieux compte tenu de la situation dont ça se passe, donc c'est pas ça va entraîner personne d'autre. Mais ça ne veut pas dire que les peuples européens sont contents. Donc ça serait une erreur énorme
d'en dire qu'ils sont contents.
Il faut répondre aux attentes de tous ceux que j'ai énumérés tout à l'heure, les sceptiques, les déçus, les allergiques et compagnie. Et je pense que ce dont nous parlons, alors je sais qu'on n'est pas encore au stade où on recommande des livres, mais enfin comme
ça vient,
c'est la réponse au sujet, mais je vais le faire tout de suite. Parce que le livre qui
prenez
traite
le pouvoir,
de ça,
Hubert Védrine.
C'est le livre de Yasha Munk. Le peuple contre la démocratie.
Dont on a souvent parlé dans cette émission.
Et ils disent, mais alors ça revient parce que c'est vraiment lié à nos discussions, d'ailleurs, y compris le premier point, y compris le deuxième point, en disant, mais en réalité, les mécanismes démocratiques conduisent les peuples à voter pour une démocratie qui est de moins en moins libérale, et ceux qui se relèvent qui invoquent le libéralisme sont de moins en moins démocrates, en réalité, au nom de toute une série d'autres entités.
Oui, c'est le
principes.
Peuple contre la démocratie, alors, c'est les élites contre le peuple aussi. Il y a un double
on peut en penser ce qu'on veut, mais le livre est extrêmement intéressant par rapport à ça.
Le mot de la fin, Sylvie Goulard.
Non, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que je crois quand même on peut dire que les institutions européennes sont complexes, on peut dire ce qu'on veut, mais je voulais quand même, par rapport à ce qu'ont dit Monique et Aurélie, faire une remarque. Les États ont accepté souverainement un certain nombre d'engagements. Quand on a fait l'euro avec les Italiens, c'est pas les Allemands qui ont voulu l'euro, c'est plutôt l'Europe du Sud, d'accord ? Et on a fait un traité, je parle sous le contrôle du Verdun. La France s'est beaucoup battue, mais les Italiens ont tout fait pour être dedans. Ils ont créé des impôts pour rattraper, etc. Donc, ils se sont engagés. Donc, quand on dit, vous avez dit, la démocratie souveraine, mais la souveraineté ne va pas jusqu'à vouloir tout et son contraire. Si vous vous engagez dans un système, vous pouvez de l'intérieur souhaiter le changer. Ça, c'est tout à fait normal et je crois qu'il y a des choses à changer. Mais il n'y a aucun système qui pourra fonctionner. Aucun. Si on veut être aussi unis que si on était un État totalement fédéral et aussi libre que si on était des nations totalement divisées.
En 2012, Sylvie Goulard, dans un livre que vous aviez coécrit avec Mario Monti, l'ancien Premier ministre italien, vous aviez écrit « Les Européens voudraient être aussi forts que si l'Europe était unie, mais conserver autant de souveraineté nationale que s'ils ne l'étaient pas. »
Mais chère Sylvie, je ne peux qu'acquiescer à ce raisonnement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les peuples ne le comprennent pas.
Mais les peuples ne le comprennent pas si justement on leur dit encore une démocratie souveraine.
Il faut leur dire et le leur redire. dire que la délégation de souveraineté est un acte de souveraineté.
Je vais dire plus simplement, si vous permettez.
Cela va de soi.
Si vous entrez sur un terrain de foot,
aujourd'hui, on a affaire à une protestation populaire qui se dit démocratique et qui dû incontestablement l'est.
Oui, puisque moi, je prends toujours un exemple quand je suis sur le terrain.
Si vous enfilez un problème que pose la conciliation des deux souverainetés est véritablement un problème qui n'est absolument pas résolu. Il faut ne pas hésiter à énoncer toutes les difficultés que cela pose et les faire partager aussi largement que possible. Ce n'est pas en considérant
si
que c'est une évidence
que
cela permettra de convaincre les peuples d'y adhérer.
Merci. Non, mais c'est une chose d'énoncer les difficultés, mais la démocratie comprend aussi une part de responsabilité. Moi, l'exemple que je prends et qui est facile à comprendre, si vous allez jouer au foot, il y a des règles, il y a un arbitre, il y a des juges de touche, vous savez que vous jouez au foot. Si vous voulez, en milieu de partie, décider tout seul de jouer au rugby, ça ne marche pas. L'Europe, c'est un sport d'équipe. Donc, il faut bien se mettre d'accord avec les autres sur les règles, le but du jeu et l'acceptation d'un arbitre. Après, on peut passer du foot au rugby si on veut. C'est un autre sport d'équipe avec d'autres règles et un autre arbitre. Mais on ne peut pas à la fois prétendre jouer en équipe, que Trump nous respecte, que les Chinois nous considèrent comme une entité, et dire chacun à l'intérieur de cette entité fait absolument ce qu'il veut. Ça n'est même pas un problème de politique, c'est un problème de relations humaines.
Mais nul ne le considère, mais la politique se fait avec des peuples.
Oui,
ça c'est malheureusement...
Le problème, c'est que l'Union européenne porte comme idéal la démocratie libérale au sens politique du terme, pas économique, et qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens, et ils sont peut-être en voie de devenir majoritaires en Europe, qui considèrent qu'ils sont oubliés par les politiques menées concrètement par l'Union européenne. Et ces gens-là l'expriment par leur droit, par leur bulletin de vote, ce qui est l'essence même de ce que leur accordent les droits
reconnus par l'Union européenne. Un certain nombre de dictateurs sont arrivés au pouvoir par le vote. Oui, mais nous savons aussi de l'histoire du XXe siècle. Non, mais je ne jette la pierre à personne, je dis simplement que...
Je ne dis pas que c'est bien, mais je fais ce constat. Et ça veut dire qu'il faut aussi changer la manière dont l'Union européenne se perçoit elle-même, parce que les peuples,
que les peuples
et des mouvements anti-élites, d'accord, mais il ne faut pas oublier que le mouvement des élites contre le peuple et de mépris du peuple, il est bien réel aussi.
Et face à cette impuissance que vous aurez beaucoup soulignée dans cette émission, quelques recommandations de lecture. Donc le livre de Yasha Munk dont parlait Hubert Védrine, Aurélie Filippetti.
Moi, c'était le livre sur les gilets jaunes d'Alexis Spire, qui est résistance à l'impôt, l'attachement à l'État.
Monique Cantos-Perbert.
Pour moi, ce serait un livre qui va dans le sens du pluralisme, parce que le meilleur moyen de lutter contre le populisme, c'est le pluralisme, c'est la condition du libéralisme politique. Alors, en insistant sur les différentes histoires nationales, je rappellerai la trilogie de Saul Morgenstern, qui a été écrite dans les années 50, qui s'appelle « Étincelle dans l'abîme », qui raconte l'histoire d'une communauté, là il se trouve que c'est une communauté des Juifs, dans la Pologne 1923, comment ces nouvelles identités nationales intègrent leur peuple. Et je recommande également l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Armées sur la guerre qui n'en finit pas, parce que l'armistice de 18 et la paix qui a conclu a été l'occasion de nombreuses guerres dans les pays de l'Est.
Sylvie Goulard, encore les traces. En quelques secondes,
moi je recommanderais le livre de Sébastien Hafner qui s'appelle Histoire d'un Allemand, qui raconte l'histoire d'un enfant pendant la guerre de 14-18 en Allemagne, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dans les années 20 avec l'hyperinflation et tout ce que ça a induit pour la société et la montée du nazisme. Et c'est là qu'on voit que malheureusement les dictateurs arrivent parfois au pouvoir par le vote démocratique.
Merci Sylvie Goulard, Aurélie Filippetti, Hubert Védrine, Monique Cantos-Perbert. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jeanrenaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. À suivre, on est midi, on est dimanche, l'heure de l'apéritif dans Les Bonnes Choses de Caroline Bourré. On s'intéresse à l'incroyable histoire du vin pour clôturer en beauté cette semaine de Beaujolais Nouveau et de bons résultats d'audience pour France Culture et Radio France. France Culture qui signe la plus forte progression radio en France avec plus 27% d'auditeurs en un an. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine. Oui, ça, c'est...